Bonjour à tous et bienvenue à vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec, comme chaque jour, vos initiatives, vos créations et notre patrimoine. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à une incroyable collection de voitures retrouvées il y a peu et vendues à Tarbes. Ensuite, on découvre comment une start-up révolutionne les toilettes. Et enfin, on va adopter une rangée de vignes, ça c'est en Bourgogne ou bien en Bordelais. Mais avant tout cela, c'est l'actu de ce jeudi 24 janvier. Bonjour Denis Farou.
Bonjour Frédéric Le Tornier, bonjour à tous.
Carlos Ghosn n'est plus le patron de Renault.
Le tandem Thierry Bolloré et Jean-Dominique Senard, le patron de Michelin, devraient être intronisés dans la journée.
Le grand débat national vu de la Drôme aujourd'hui avec le déplacement d'Emmanuel Macron.
Un débat qui s'installe jusque dans des salles de cours, on va voir une initiative à Toulouse.
Des enseignants et des lycéens sont en grève aujourd'hui.
Ils réclament le retrait de la réforme des lycées et celle du bac, l'arrêt des suppression de postes et l'augmentation des salaires pour les profs.
Il ne faut pas rester assis trop longtemps pour ménager sa santé.
C'est-à-dire, Valérie Barbe, à partir de combien de temps ça devient dangereux de ne pas bouger?
Ça va vite, dès qu'on passe plus de 3 heures assis dans la même journée.
Raphaël Nadal est en finale de l'Open d'Australie.
Est-ce qu'il y aura des Français en finale, Jean-Laurent Bernard?
Ah oui, mais c'est du présent. Il y a 3 Français en finale déjà.
Les Enfoirés débutent la série de concerts ce soir pour les Restos du Cœur. On passera par Bordeaux. Bienvenue à tous dans Une Heure en France.
Une heure en France, Frédéric Le Tornier, Denis Farou sur France Bleu.
La dernière alerte orange à la neige et au verglas a été levée à midi en Corse, mais des écoles restent fermées sur l'île pour la journée.
La situation revient à la normale après une journée difficile pour certains. Les postiers, par exemple, qui n'ont pas pu tous faire leur tournée.
À Olliergues, dans le Puy-de-Dôme, Pascal, la factrice, a réussi elle, à faire sa tournée, voire un peu plus avec les personnes âgées, malgré les routes difficiles.
Écoutez Pascal, elle ne voulait pas lâcher ses clients dans le village entre Clermont et Saint-Étienne.
Ce que j'aime bien, c'est le contact toujours des clients. Alors, il y a les petites personnes que j'aime bien dorloter, quoi. Je leur porte leur courrier presque à domicile, quoi. Je veux pas qu'ils aillent parce qu'ils ont tendance à aller chercher leur courrier avec leurs pantoufles, alors je dis stop. On s'arrête pour demander si tout va bien, etc. Quoi, on s'adapte selon l'état des routes, quoi. Des fois c'est dégagé, alors on peut y aller, et puis on connaît les endroits où on peut tourner facilement, sans encombre, quoi. Puis on est équipé quand même, on a des bons pneus, des chaussures, des anti-glisses, tout ça. Je prends mon temps, j'ai quand même une appréhension, alors donc je vais doucement, donc forcément je perds du temps. Enfin, mais je préfère perdre du temps que de prendre des risques.
Merci Pascal, la factrice, de prendre votre temps avec ceux qui sont un peu isolés à la campagne.
Carlos Ghosn, incarcéré depuis plus de 2 mois au Japon, n'est plus le patron de Renault, il a démissionné.
L'annonce officielle est venue de Bruno Le Maire qui s'exprime en anglais sur la chaîne Bloomberg TV.
Carlos Ghosn vient juste de démissionner la nuit dernière et maintenant il est temps de définir et de mettre en place une nouvelle gouvernance car la chose la plus importante c'est de préparer le futur de Renault et le futur de l'Alliance.
Le conseil d'administration de Renault a débuté dans la matinée pour entériner un tandem composé de Thierry Bolloré, adjoint et dauphin désigné de Carlos Ghosn et Jean-Dominique Senard, le patron de Michelin.
Emmanuel Macron est dans la Drôme pour la 3e sortie présidentielle pour lancer le grand débat national.
C'est plus cadré que dans l'Eure et dans le Lot. Une rencontre en tête-à-tête avec Laurent Wauquiez, le président des Républicains. Un déjeuner débat avec une 60aine d'élus d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et une visite à une structure d'accueil de jour pour personnes âgées à Bourg-de-Péage. Les forces de l'ordre empêchent des gilets jaunes d'approcher de la préfecture de Valence en ce moment. La journée dans la Drôme est à suivre sur francebleu.fr.
Le débat national se poursuit dans les mairies ou les salles des fêtes en France et même à l'école.
Un professeur d'occitan à Toulouse a décidé d'aborder l'actualité des gilets jaunes en faisant rédiger à ses élèves des synthèses de discussion qui seront envoyées sur le site du grand débat public Stéphane Iglesis.
Tout est parti de la discussion d'actualité que cet enseignant d'occitan fait chaque semaine en cours pour inciter ses élèves à pratiquer la langue qu'il enseigne. Ce sont les élèves qui ont souhaité évoquer le thème des gilets jaunes. Du coup, l'enseignant leur a proposé de travailler à la rédaction d'une contribution collective. Juliette, élève de Terminale S à Saint-Cernin.
On a vraiment commencé que la semaine dernière. Donc on a vu qu'il y avait une partie sur tout ce qui était l'économie, donc les taxes, la fiscalité, tout ça. Après, il y a une question environnementale aussi. Et comme vraiment les taxes, c'était le cœur du débat gilets jaunes, nous du coup c'est là où on était déjà très au courant par rapport à l'ISF. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une très bonne idée de nous faire participer à ce débat parce que notre prof, il n'est pas là pour nous influencer, mais au moins grâce à lui, on peut déjà mettre les choses au clair et même en apprendre plus aussi.
D'autres élèves qui ont eu vent de l'initiative auraient souhaité que d'autres professeurs fassent de même. Emma, élève de première S.
Là, clairement, il y a un changement depuis les gilets jaunes. C'est quand même inouï ce qui s'est passé. Ça faisait quand même
très longtemps qu'il n'y avait pas eu un mouvement social aussi important. Et du coup, peut-être que les professeurs, ils pourraient nous aider à comprendre tout ça et avoir un autre point de vue aussi par rapport aux journaux, etc., sans bien sûr nous influencer.
Les deux élèves vont discuter avec les gilets jaunes dans les manifestations du samedi. Quant au professeur, sa hiérarchie lui a interdit d'évoquer dans les médias cette initiative originale.
Voilà pourquoi on n'entend pas l'enseignant, mais seulement des élèves. Merci Stéphane Iglesis.
On reste à l'école. Plusieurs syndicats de l'éducation nationale appellent à la grève ce jeudi contre la réforme du lycée Parcoursup ou les suppressions de postes annoncées pour la rentrée.
Des enseignants du mouvement Les Stylos Rouges ont commencé hier à Rouen et au Havre notamment, avec une manifestation d'un nouveau genre. Pas de drapeau, pas de tract, pas de slogan crié dans le mégaphone. Les profs sont venus avec des copies à corriger sous le bras.
Sophie Chauvet, syndiquée FO et professeure d'espagnol d'un collège du Havre, rappelle les revendications des stylos rouges.
La première chose, c'est le dégel du point d'indice, l'augmentation des salaires. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi la reconnaissance. On aimerait vraiment être reconnu dans notre travail, que ce soit par les hiérarchies comme aussi par la société, parce qu'on entend souvent la société dire qu'on est des feignants, qu'on a plein de vacances, qu'avec nos horaires devant élèves, on est bien, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est l'envers du décor. On a aussi beaucoup d'heures de préparation. Les vacances, certes, on a des vacances régulièrement, mais il ne faut pas croire, on travaille. Et puis régulièrement, il y a des projets en plus, des réunions en plus, les réunions pour se concerter sur les cycles, pour la validation des compétences. Donc bien sûr, il y a des choses qui font partie de notre travail à part entière, mais voilà, il y a des tas de choses qui s'ajoutent, et ça, c'est pas pris en compte. Et à un moment donné, c'est pas forcément évident tout le temps de garder la niaque, garder la pêche. En plus, parfois on a des publics qui sont pas toujours très faciles, avec qui ça peut être très conflictuel, et on a aussi besoin énormément de nos collègues, de notre hiérarchie, d'être reconnus, d'être soutenus, ce qui n'est pas toujours le cas.
On peut rassurer la prof d'espagnol au micro de Romain Chevalier en ce qui concerne la reconnaissance de la société. Une très large majorité de Français juge les profs compétents et efficaces dans le sondage Odoxa que l'on a découvert ce matin.
Un pays avec deux présidents, ce n'est pas banal.
Au Venezuela, le président du Parlement s'est autoproclamé président par intérim et a reçu le soutien des États-Unis, du Canada et de 12 pays d'Amérique latine. Pour l'instant, l'armée soutient encore Nicolas Maduro. L'Europe réclame des élections libres et crédibles dans le pays.
13h08 sur France Bleu, la suite du Nord en France passera par Chamonix et par Bordeaux avec un souvenir olympique et les enfoirés qui montent sur scène ce soir. Mais avant, on bouge. On nous le dit, on nous le répète, il faut bouger pour être en bonne santé. Ce qui veut dire donc qu'il ne faut pas rester assis. Moins on passe de temps vissé sur notre siège et moins on a de risques de mourir prématurément.
Ça mérite de se pencher sur cette étude récente de Santé publique France. C'est donc si dangereux que ça de rester assis trop longtemps, Valérie Barbe?
Bah oui, parce que génétiquement, on n'est pas du tout programmé pour rester assis. On est fait pour être debout et pour bouger. À l'échelle de l'histoire humaine, ça fait très peu de temps en fait qu'on reste aussi longtemps vissé à nos sièges, comme vous disiez. C'est un changement qui est bien trop rapide pour notre pauvre petit génome, il ne peut pas s'adapter.
Et au bout de combien de temps passé assis, ça devient risqué pour notre santé?
Au bout de seulement 3 heures par jour. Ouais, c'est pas beaucoup. Et c'est encore pire, évidemment, si on passe 7 heures assis ou même allongé, comme pas mal de jeunes, dans la journée. Et d'ailleurs, c'est le cas de 4 adultes sur 10, 7 heures assis ou allongé.
Bon, d'accord. Eh bien, on se lève, Frédéric.
Allez, d'accord, tout le monde debout.
On se rassied maintenant?
Et on se rassoit.
On est sauvés ou pas là?
Ça suffit?
Comment vous dire que non, absolument pas. Il faut en faire un peu plus que ça, désolé. Comme par exemple marcher pour aller voir un collègue, ou bien juste se prendre un petit café à la machine. En fait, tout ce qui fait bouger nos muscles, à la maison comme au travail, ça compte pour lutter contre notre ennemi à tous, la sédentarité. Et la bonne nouvelle, c'est que rien qu'une petite demi-heure d'activité physique légère, pas un truc trop dur, eh bien ça fait baisser de 17% le risque de mortalité. Et si on pratique un sport plus soutenu pendant, pareil, une demi-heure, eh bien le risque là diminue, tenez-vous bien, d'un tiers. Donc on se lève tous
Pour notre santé.
Bravo Frédéric, vous suivez
qui
moi.
Suis.
Valérie, je vais vous confier quelque chose.
Dites-moi.
Je ne téléphone jamais à Frédéric Le Tornier. Je me lève et je vais la voir à son bureau et elle fait pareil. C'est bien, oui. Docteur Barbe?
Vous êtes parfaits tous les deux, surtout ne changez rien.
Pas très loin, faut dire, Denis, mais enfin bref. Quand on disait que la Coupe de France de football réservait toujours des surprises, en voici
la
d'autres.
La victoire incroyable de Dijon à Saint-Etienne, 6-3, ça ressemble à un set de tennis, 6-3. Sinon, Rennes, Caen, Orléans, Croix, l'équipe de National 2 du Nord et le PSG sont qualifiés.
Ah oui, mais la cheville de Neymar revient dans l'actu comme l'année dernière.
L'attaquant brésilien-parisien souffre d'une réactivation douloureuse de la lésion du cinquième métatarsien au pied droit. Vous voyez le problème?
Non.
Le PSG... est inquiet avant la Ligue des Champions.
Il reste 3 matchs ce soir. Vitré-Le Havre et Bastia-Noisy-le-Grand et puis Amiens-Lyon. Le dernier match, ce sera dimanche. Sanois-Saint-Gratien face à Nantes.
Oui, un match qui a été décalé suite à la disparition en mer d'Emiliano Sala qui venait de quitter le FC Nantes. Les recherches ont repris ce matin pour retrouver le footballeur argentin et le pilote.
En général, quand on arrive aux demi-finales de tennis d'un tournoi du Grand Chelem, les Français, malheureusement, ne sont plus là.
Et on ne fait plus appel à vous, Jean-Laurent Bernard.
Ce qui est bien dommage.
Mais il se trouve que le vent tourne en ce moment en Australie. On commence par les femmes.
Oui, Stosur Zhang contre Mladenovic Babos demain matin, c'est à 6h française. Une Française et une Hongroise contre une Chinoise et une Australienne. Aïe, on sait déjà où ira le soutien du public. Mais Mladenovic et Babos, c'est du lourd. En plus, elles vont défendre leur titre puisqu'elles ont gagné l'an dernier. Et la perspective d'un doublé historique, ça vous aide en général à sortir du lit.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a le décalage horaire. Autre choc attendu, Pouille Djokovic.
Ah oui, ce sera à 9h30. Sur papier, il n'y a pas photo. Djoko doit gagner. Mais... Pouille capitalise à fond les bonnes ondes de sa nouvelle coach Mauresmo. Donc on peut y croire, à condition de ne pas trop regarder ce qui s'est passé ce matin. Le grec Tsitsipas, qui impose ses 20 ans à la vieille génération des Federer, s'est fait balayer par un ancêtre, Nadal. En 3-7, le vieux a renvoyé le gamin jouer dans son bac à sable.
Et dimanche, un autre double, celui des hommes.
Oui, Mahut Herbert contre Quentin Pierce, motivé et talentueux comme jamais, les Français veulent absolument décrocher leur 4e titre en Grand Chelem. Ils sont logiquement favoris. Bref, ils vont gagner.
Eh bien, on espère que vous reviendrez lundi pour nous compter les belles victoires en finale de la France.
Les demi-finales du Mondial de handball opposeront la France et le Danemark d'un côté, l'Allemagne et la Norvège de l'autre.
Vous avez tout dit. Non, peut-être, ce sera demain à Hambourg.
Il y a 95 ans aujourd'hui, débutaient en France, à Chamonix, les premiers Jeux Olympiques d'hiver de l'histoire, quelques mois seulement avant les premiers Jeux d'été, et c'était à Paris.
« 24 janvier 1924, la cérémonie d'ouverture à Chamonix, moins grandiose que celle d'aujourd'hui. 16 nations, 7 épreuves, 300 participants. »
Chamonix choisi pour son emplacement à seulement quoi 15 heures de Paris par le train. Et puis ses palaces pour accueillir les délégations. 3 médailles de bronze pour la France lors de ces Jeux, en patinage artistique, en curling et patrouille militaire.
La patrouille militaire, c'est le biathlon d'aujourd'hui, mais par équipe de 4. Un officier, un sous-officier et 2 hommes de troupe qui tiraient sur des cibles à 250 mètres avec des fusils qui dataient de la guerre de 14.
Et ça, c'est Gershwin en 1924, année des premiers Jeux Olympiques de l'histoire à Chamonix et à Paris.
En attendant, 2024 à Paris.
C'est le retour des Enfoirés ce soir à Bordeaux, le début d'une série de 6 concerts. Et c'est samedi que les auditeurs de France Bleu qui ont gagné leur place assisteront au concert que l'on verra à la télé au mois de mars.
Une 40aine d'artistes et quelques petits nouveaux. Harry Habitant, qui était dans France Bleu Soir hier, d'ailleurs avec Arnold Derek, Isabelle Nanty, Claudio Capeo ou Slimane. Il a 30 ans, il a tout juste l'âge des Enfoirés.
Les Enfoirés, je les connais depuis tout petit. Je me rappelle dans les bus de Colonie, on chantait « Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid ». C'est vrai que voilà, être là aujourd'hui pour faire partie de cette troupe incroyable, je suis très reconnaissant, respectueux de tout ce qui a été fait et très fier aujourd'hui de pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice. Quand tu as vu des mamans revenir avec des courses parce qu'ils étaient partis au resto, tu l'oublies jamais. Et être là, et bien sûr que quand je suis là et quand je suis sur scène, je repense à ces moments-là. Viens, on s'aime. Allez, viens.
Les Enfoirés avec France Bleu, la radio partenaire des Restos du Cœur.
Et on reste dans le sud-ouest, après Bordeaux, on va à Pau et à Tarbes, dans des vignes et au petit coin aussi.
Avec des toilettes glamour, des plans de vignes à adopter et une Lamborghini de 1968. Wow. Tout ça, c'est après la météo du jour.
FranceBleu.fr. Toutes les infos pratiques de France Bleu, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr.